top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes.
You are fake news.
Il est 9h40, soyez les bienvenus dans l'instant M. Merci d'être fidèles à France Inter.
Vous vous coupez ?
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Les séries ne s'écrivent, ne se tournent, ne se montent et ne se diffusent pas du jour au lendemain. Quelle est longue la gestation, bien plus que la fabrication. C'est que les chaînes hésitent, c'est qu'il est des sujets moins courants, voire plus embarrassants que d'autres à la télévision française. Cette année, dans la vie, la vraie, Nicolas Hulot démissionne face au pouvoir des lobbies. Les jeunes descendent dans la rue pour l'écologie. Les Verts arrachent les européennes. L'Amérique entame d'éclatants procès contre Monsanto et sont démasqués les officines payées. Figurez-vous par l'industrie de l'agrochimie pour faire pression sur les élus et les journalistes. Pile dans le mille, Arte boucle sa saison avec jeu d'influence, un agriculteur atteint de l'aphome, un député en croisade contre les pesticides. Fiévreuse saga politique, puissant thriller psychologique, quand la fiction télé ose s'emparer des rouages les plus complexes de notre société, elle percute de plein fouet l'actualité.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Jean-Xavier de Lestrade.
Bonjour Sonia.
Soyez le bienvenu dans l'Instant M. Jeu d'influence commence ce soir. Il y en aura pour 6 épisodes. C'est sur Arte, série coécrite avec Antoine Lacomblaise.
Je toucherai pas à leur fric.
Ouais, bah tu devrais. Parce que si tu le files, c'est qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. C'est ça qui compte.
Je suis pas menteur, moi. Ceux qui payent et comme il faut. J'en veux pas de leurs arrangements foireux où on n'aura plus qu'à fermer notre gueule.
Mais putain, t'as pensé un peu à moi, à mon avenir, à ce que je veux? Je bosse comme un dingue, je gagne que dalle. J'ai bientôt 25 ans, j'habite toujours chez mes vieux, j'ai même pas de quoi me payer une caisse, c'est normal ça? T'as pensé à ce que ça changerait ma vie d'avoir même le dixième de ce qu'ils te proposent? T'as pensé à ça?
On va s'en sortir, mais pas comme ça.
Mais non, on s'en sortira pas. Ils vont faire durer le truc, ça va prendre des années. Non, on s'en sortira pas, non.
Je suis pas pressé.
Ouais, t'es sûr que t'es pas pressé?
Qu'est-ce qui est venu en premier, Jean-Xavier de Lestrade? L'envie d'une fiction sur l'agriculture et peut-être l'agrochimie, puisqu'elles sont indissociables l'une de l'autre aujourd'hui. Celle-ci aurait pu vous entraîner bien ailleurs. Ou l'envie d'une fiction politique qui aurait pu vous faire raconter bien d'autres choses?
L'envie d'une fiction politique, en premier. L'envie de raconter ce télescopage entre le milieu politique et les lobbies, ce télescopage quand on a l'impression que l'intérêt général s'oppose aux intérêts privés. Qu'est-ce qui se passe dans cette confrontation? Donc c'était ça le premier désir.
Et qu'est-ce qui dans les coulisses de la politique en tant que metteur en scène vous intéresse? Indépendamment de ce qu'il y a à mettre au jour, de ce qu'il y a à révéler, qu'est-ce qui vous intéresse en tant que metteur en scène?
Déjà, finalement, c'est très difficile de faire une série sur la matière politique. C'est quand même une matière assez bavarde, assez complexe à écrire, à mettre en scène. Moi, c'est aussi en tant que citoyen, je me suis toujours intéressé à la politique, toujours passionné pour la matière politique. Mmh. Et je trouve que finalement, le public français mérite d'avoir des vraies séries sur la politique. Il en existe une, Marron Noir, mais finalement, il y en a très très peu qui traitent véritablement de ce quotidien-là. Et ce qui était très important pour moi, c'était de prendre aussi un député de base, quelqu'un qui soit intègre, quelqu'un qui soit assez fidèle à ses convictions, qui a envie de mener au bout ses idées, et donc de montrer peut-être un aspect un peu plus positif du politique.
Qui est interprété par Laurent Stocker de la Comédie française.
Sinon, ça peut aussi être Rostand, mon chef de groupe.
Pour le poste de rapporteur?
Oui. Elle convoite le ministère de l'Agriculture. Pour elle, c'est un très très bon moyen de mettre la main sur les dossiers.
Si c'est Rostand, c'est mauvais pour nous.
Pourquoi?
Elle bouffe à tous les râteliers.
On a eu des mauvaises expériences avec elle par le passé.
Comme quoi?
Elle ne sait pas dire merci.
Nous voici ici au cœur d'un cabinet de lobbying. Qu'est-ce qu'un bon méchant, Jean-Xavier de Lestrade, en fiction? Quelles qualités, ces défauts doivent-ils avoir?
Un bon méchant, c'est quelqu'un qui doit être séduisant, charismatique, fascinant. C'est quelqu'un qui doit faire peur en même temps. Et on sait qu'il fait peur et on ne peut s'empêcher de le regarder et de l'écouter. C'est surtout ça, enfin, c'est ce qui me plaît chez les méchants.
Là, vous avez fabriqué un avocat lobbyiste, bras armé, exécuteur des bases œuvres de Saskia, qui est votre, on va dire, Monsanto de fiction, ou bailleur de fiction, si on veut. Mathieu Baumann, interprété par Sivadier. Peur, vous avez dit peur.
Il y a quelque chose que vous cherchez à me dire, là ?
Mais non, rassurez-vous, si j'avais quelque chose à vous dire, je le ferais très simplement. Croyez-moi, il m'arrive d'être extrêmement direct. On me le reproche quelquefois. Mais là, on joue. C'est important de savoir jouer dans ce métier, non ? C'est ce qui fait toute la différence entre les gagne-petits et les autres. Ceux qui crèvent le plafond. Crever le plafond, ça vous tente pas ?
Je sais pas.
Vous n'avez rien à me dire ?
Non, je vois pas.
On a tout le temps. Un peu plus tard, Claire.
C'est aussi un film sur l'emprise, Jean-Xavier de Lestrade.
Oui, c'est aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces personnages qui travaillent dans des cabinets de lobby, donc les lobbyistes, et sont des gens brillants, très intelligents.
Vous en avez rencontré ?
On a rencontré certaines personnes qui avaient travaillé dans des cabinets de conseil. Oui, et chaque fois on est quand même assez surpris par leur intelligence, ce côté très séduisant. Ils manient le verbe avec délectation, avec délice et avec brio. Et donc forcément on est presque happé par eux. Et c'est là où réside leur pouvoir. C'est-à-dire que, finalement, vous avez parlé d'emprise, c'est le terme exact. Et là, on vient d'entendre l'extrait. C'est une journaliste qui a été, une ancienne journaliste politique qui a été engagée dans un cabinet de lobby. Elle vient sous l'emprise de ce responsable du cabinet, cet avocat brillant, joué par Jean-François Sivadier.
Jean-François Sivadier qui est absolument remarquable, jeu d'influence, 6 épisodes filmés en plan serré. Comme si vos personnages étaient sans cesse enfermés dans une boîte irrespirable, dans le cadre de l'image, sans cesse acculés, sans cesse entravés. Je dirais qu'on compte sur les 6 épisodes, sur les doigts d'une main, les séquences où votre caméra consent à les laisser respirer un tout petit peu. Je crois que j'ai vu un bord de mer, un peu en plan large. Je crois que j'ai vu une vue de la place de la Concorde à Paris et un paysan au milieu de ses terres, et encore, la plupart du temps, vous collez à son visage de cancéreux.
Oui, parce que, enfin, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que, en même temps, je voulais que ça soit irrespirable, effectivement, c'est-à-dire que on soit le plus proche des personnages, au plus près d'eux, parce que ils sont tout le temps et les cadres sont très précis, sont serrés, il y a des mouvements comme ça de caméra qui les accompagnent dans une mise en scène aussi très précise parce que chaque fois ils sont en but avec un obstacle, quelque chose qui les empêche en permanence, et donc je voulais que la mise en scène rende
ça, une lumière qui les empêche d'y voir clair. Rien là-dedans n'éclate au grand jour.
Oui.
Donc, mais c'est presque. Au fond, c'est une série sombre, mais presque à l'image aussi.
Oui, on a tourné en hiver et c'était très bien de tourner en hiver avec une lumière assez froide, assez bleue. Mais je trouve que le premier plan du film est assez emblématique parce que on démarre par un plan très très large. Pour le coup, on est à la campagne, on voit au loin un tracteur et un agriculteur qui est en train de désherber son champ avec ces immenses rampes qui font 20 mètres de large. Et peu à peu, on accompagne ce tracteur qui avance vers nous pour finir par un très 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 gros plan sur les petits jets qui dispersent le désherbant et le poison dans nos champs.
Alors, je vous ai demandé qu'est-ce qu'un bon méchant, je vais vous demander qu'est-ce qu'un bon coupable.
Bon, comme vous le savez, notre mutuelle ne couvre que les maladies professionnelles et les accidents du travail. J'ai bien peur que votre maladie n'entre dans aucune de ces deux catégories.
Ah bon ? Et je l'ai attrapé comment, mon cancer, d'après vous ?
Ça, je n'ai pas les compétences médicales pour vous répondre, en fait.
Vous savez très bien qu'ils sont des centaines, voire des milliers, comme mon client, à avoir été contaminés par les produits qu'ils ont utilisés.
Bon, si je puis me permettre, d'expérience, j'ai bien peur que votre plainte contre Saskia ne soit percevable.
Ça, monsieur Bouaillé, c'est la prochaine audience au tribunal qui en décidera. Et croyez-moi, vous n'allez pas rester longtemps planqué derrière votre bureau avec vos formulaires. Tout a une fin. Même l'impunité.
Qu'est-ce qu'un bon coupable, Jean-Xavier de Lestrade ? Un homme ou un système ?
Là, en l'occurrence, on a un agriculteur qui est malade, qui a attrapé un cancer, et on voudrait le discours des lobbyistes, le discours de l'agrochimie voudrait le faire passer pour le coupable. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait finalement mal utilisé les produits. Donc ça serait lui qui devrait être le premier responsable de sa maladie. Alors que, au fond, on sait très bien que c'est il n'est coupable à rien, il n'est responsable de rien, si ce n'est que pendant des années, des décennies, au fond, deux, trois générations d'agriculteurs, on leur a dit que ces produits étaient des produits miracles qui allaient leur permettre, effectivement, d'augmenter leur rendement. Et donc,
ces décennies et ces décennies, c'est le générique de la série. C'est les images de finalement de votre génération, de l'enfance de votre génération née dans les 30 glorieuses.
Oui. Moi, je viens.
C'est les images de l'agriculture intensive.
C'est les images de l'agriculture intensive. C'est les images de l'agriculture née dans les années fin des années 50, les années 60, 70, qui ont vu l'arrivée massive des engrais, des pesticides, mais qui ont permis. Je viens d'une famille d'agriculteurs. J'ai grandi dans une ferme. J'ai grandi dans des champs où j'ai vu mon père effectivement utiliser les engrais et utiliser ces pesticides et les utiliser comme si c'était un produit miracle, comme si c'était un produit qui effectivement permettait d'avoir des rendements bien meilleurs et donc d'avoir aussi de pouvoir gagner mieux sa vie de son travail. Donc à aucun moment c'était vécu comme quelque chose de nocif ou de toxique et c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui pour les agriculteurs aujourd'hui de reconnaître qu'au fond tout ce qu'ils ont considéré comme étant extrêmement positif pour eux et donc pour tout le monde, pour nous, au fond, finalement, c'est un poison terrible.
Et c'est très difficile pour la justice. Je m'adresse à Jean-Xavier de Lestrade qui, toute sa carrière, a filmé ou reconstitué des procès pour mettre en cause ou au contraire pour plonger dans les arcanes du système judiciaire. Et là, vous choisissez de situer l'histoire avant la justice. Tout l'enjeu de cette histoire, c'est est-ce qu'il y aura justice ou non ? Est-ce que la justice peut simplement entendre ou non la souffrance de cet homme et derrière tout le système qui va avec ?
Oui, c'est extrêmement difficile parce que au fond, on a ces agriculteurs qui décident de porter plainte. Il y a eu des cas en France, et notamment il y a eu le cas de Paul François. Mais il faut quand même voir le procès
qui
Paul François
Monsanto.
Qui a attaqué Monsanto. C'est une plainte qui a duré pendant qui est pas tout à fait terminée d'ailleurs, mais qui s'étale sur plus de 10 ans. C'est 10 ans de combat judiciaire. Vous confrontez à une puissante multinationale qui pèse des milliards de dollars et pour eux ce n'est rien du tout que de payer un cabinet d'avocats de 10 personnes qui vont travailler quotidiennement pour leur cause.
Et justement, la puissante multinationale, est-ce qu'elle se présente pas elle-même comme le coupable idéal ? Qui est le titre d'un de vos films, évidemment.
Oui.
10 ans, à qui veut l'entendre ? Nous sommes toujours le coupable idéal parce que nous sommes sans visage, parce que nous sommes finalement une économie mondialisée, parce que nous sommes des entreprises multinationalisées, parce que nous sommes un marché. Nous sommes le coupable idéal.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, on sait, il y a des documents qui le montrent, on sait très bien que c'est très grosse multinationale d'agrochimie. Donc, vous avez cité Monsanto, mais il n'y a pas que Monsanto, Bayer et d'autres, ont menti, ont clairement menti sur la toxicité de leurs produits. Pour Monsanto, on sait qu'ils savent très bien que le glyphosate est extrêmement dangereux. Ils savent ça depuis le milieu des années 90. Il y a des études internes qui le montrent. Donc, ils ont caché tout ça.
Et c'est les manœuvres de ces mensonges.
Donc, coupable idéal, c'est quand même des gens qui ont menti sciemment.
Claire Lancel, la journaliste devenue lobbyiste dont vous parliez, qui est interprétée par Alix Poisson.
Claire Lancel, qui a vendu son âme au diable.
Ouais, mais elle a vendu cher. Très cher.
Je l'ai dit, c'est un film avant la justice, mais c'est un film plein de justiciers. Le problème des justiciers, c'est qu'ils ne sont ni la loi, ni les institutions. Ils ne sont que des hommes, pleins de contradictions et pleins de failles. On peut les prendre les uns après les autres. Au fond,
oui.
Ils sont fragiles.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tous les personnages, moi j'aime les personnages complexes.
Ouais.
J'aime les personnages qui sont pas du tout caricaturaux, évidemment. Et ce personnage de Claire Lancel, qui est une journaliste politique, je disais tout à l'heure, qui a été recrutée par un cabinet de lobby, de conseil. Elle arrive avec son éthique et son caractère entier, et en même temps elle a envie de travailler parce qu'elle est très bien payée. Et dans ce moment de sa vie, ça tombe bien. Elle a envie de bien travailler pour ce cabinet de lobby. Mais peu à peu, elle va s'apercevoir que finalement, c'est peut-être pas si simple.
Et puis vous avez un député si droit, si raide, si sincère, si intègre, mais qui a quand même un agenda politique,
oui,
qui a quand même les intérêts de sa circonscription à défendre. Mmh. Vous avez un assistant parlementaire formidable, personnage formidable, acteur d'ailleurs aussi, qui est tant à l'affect et si sanguin que lui aussi, il a une histoire à cacher, une histoire qui va le rattraper. Il a un agriculteur qui va se lancer contre Saskia au risque de faire plonger son fils et sa famille. Et au final, le combat de chacun d'entre eux est sans cesse menacé par leur humanité, par leur...
Oui, parce que au fond, c'est ça la force des lobbies. Enfin, c'est des gens qui travaillent de manière très simple.
Ouais.
Leur premier boulot, c'est d'accumuler des informations, des dossiers sur vous, sur tout le monde, sur des gens qui, à un moment donné, vont se retrouver en position de prendre des décisions qui vont les concerner. Donc, et tout le monde dans sa vie, finalement, a peut-être commis quelque chose qui était pas tout à fait droit, pas tout à fait dans la norme, pas tout à fait bien. Sauf que, à un moment donné, ça, vous allez peut-être le payer. Ça va peut-être vous rattraper. Et la force des lobbies, c'est d'accumuler ce genre d'informations sur tout le monde et de le garder bien secrètement. et à un moment donné, voilà.
Julia Foyce vient d'entrer dans ce studio et on se demande tous ce qu'elle a à cacher. Il y a un de vos personnages principaux qui vous offre une bascule formidable à la fin pour une saison 2. On en est où de la saison 2 ?
Écoutez, on en est au début de l'écriture.
Eh bien, voilà. Bon suspense à vous tous. Jeu d'influence démarre ce soir sur Arte. Merci, Jean-Xavier de Lestrade.
Merci à vous.
Alors, Julia Foyce, c'est vous. Un grand bien vous fasse toute la semaine.
Un auditeur qui a dit grand bien vous Foyce. Moi, j'aime bien. Je prends.
Ah, Julia Foyce, grand bien vous Foyce. C'est bien, bien, bien. Alors, oui. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, PMA, filiation, secret des origines. On va se poser la question, à qui profite l'anonymat? Vous parliez de choses à cacher à l'instant.
Ouais.
Parents, enfants ou donneurs? On en parle avec vous, donc vous nous appelez 01 45 24 7000.
Voilà, juste après les infos.